pom 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 pom. Les Papous de France Culture en piste jusqu'à 13h59. À l'affiche, le pamphlet contre les caisses rapides par Lucas Fournier, Jean-Bernard Pouy. Puis, place au sport avec Prévert, Hercule et le kitesurf par une spécialiste des bords de mer, Odile Conseil.
Non, monsieur, comme vous me voyez, j'invente, je crée, j'imagine que ça va, que ça va, que ça va voler un jour, tout mon attirail. La planche à repasser, là, avec mes pieds dessus, et une espèce de cerf-volant, mais en plus grand, pour me tirer. Et pourquoi que tu veux voler comme ça? Pour faire chier les oiseaux, pardi.
Pour lexicomaniaque, Clémentine Mélois planchera sur l'origine du mot baratin. Ensuite, place à la textée d'Hervé Le Tellier, avec Patrice Delbourg, Jacques Vallée. Et nous retrouverons Léonard de Vinci et sa maman, selon Jacques Jouet, pour une invention à ne manquer sous aucun prétexte.
Écoute, Léonard. De deux choses l'une, mon enfant. Soit tu fais un cadeau à ton père pour la fête des pères, soit tu fais un cadeau à ta mère pour la fête des mères. Mais faire un cadeau à ton père pour la fête des mères, non. No. Impossible.
Un numéro des Papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an. C'est le podcast pratique gratuit pour nous écouter à la demande. Merci de votre fidélité. Un grand salut à ceux qui rejoignent le club. Pour les commentaires, direction Facebook ou la rubrique du même nom à la page des Papous. Françoise Tressart et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche Papou avec sa page de Publi Papoucité par Jeanne Carillon, accompagnée de Patrice Caumont, dit le conseil Philippe Manès. Variation sur le mot coup avec un P. Jeanne, accompagnée au piano par Gabriel Godard. Musique.
Sur les coups de midi, un bon coup, coup de fourchette, joli coup. Boire un coup d'un seul coup et sur un coup de tête, joli coup. Coup d'éponge, coup de chiffon, coup de balai, coup de brosse, joli coup. Coup de ciseau, coup de pinceau, coup de peinture, coup de peigne, joli coup. Tout à coup, coup de théâtre, coup de foudre, coup du sort, coup de dé de mal armé, dont le néant sonore, joli coup. D'un seul coup, un coup de cœur, coup d'accélérateur, d'un coup d'œil, coup de filet, coup de soleil en plein cœur, joli coup. Un coup de chaud, un coup de main, un coup de langue, un coup de rein, joli coup. Un bon coup. Après coup, un coup de barre, coup de cafard, un coup de mou, coup de bambou. Un coup de blouse, un coup de pompe, un coup de fil, un coup de frein, coup sur coup. Un coup de sang, un coup de gueule, un coup de griffe, un coup de grâce sur le cou. Trafalgar, coup d'un soir, coup pour rien du lapin. Par derrière, coup tordu, coup de croc, coup de chien. Mauvais coup, à bas coup. Coup fourré, coup monté, coup de trop, coup dans le nez. Coup de klaxon, coup de sonnette, coup de gosier, coup de sifflet. Mauvais coup, un sale coup. Tout à coup, un coup de chance, un coup de peau, un coup de bol, joli coup. Un coup de pouce, coup de pédale, un bon coup de pied au cou, joli coup. Un grand coup de projecteur sur un film sans couleur, joli coup. Ça vaut le coup, c'est Truffaut, coup de génie, coup de chapeau, 400 coups.
400 coups?
Waouh!
Oubliez la peur des coups.
Soyez dans le coup.
Si vous ne voulez pas prendre un coup de vieux, laissez-vous tenter par un petit coup de folie.
Aux 12 coups de minuit, aux 12 coups de midi.
Avec les Papous à 12h50,
faites les 400 coups.
À consommer sans modération.
Absolument. Se méfier, attention, des gens qui ont l'air toujours sympas, toujours de bonne humeur. Ils cachent parfois sous leur pudeur ou leur diplomatie un potentiel de colère à exprimer. Eh bien, c'est le cas de Lucas Fournier, oui, notre Lucas Fournier. Et nous l'allons démontrer à l'instant. même s'il s'agit d'un jeu, il va le pousser, son coup de gueule, Lucas, contre une chose qui l'énerve, un de ces gros grains de sable qui gâchent le quotidien. Alors, qu'est-ce qui vous met en rage, Lucas Fournier ? Peut-être le mot pour vous est un peu fort, mais disons, qu'est-ce qui vous fait grogner, Lucas ? Vous êtes contre quoi ?
Moi, je suis contre les caisses rapides.
Ah oui, c'est vrai.
On se sert soi-même, vous voyez.
Ou on se sert, on paye tout seul, on scanne soi-même.
Contre les caisses rapides des supermarchés. Oui. Parce que longtemps, la caissière est passée à la caisse. Oui, cette femme sans âge, vestale du supermarché ou même du mini-market, aux yeux là, occupée à regarder s'écouler sur un tapis roulant les débordements de nos fièvres acheteuses. Jamais une plainte, parce que décidément, ces packs de bière à soulever d'une main fatiguée, c'est trop lourd pour son frêle poignet. Jamais un soupir, même avec Radio Nostalgie comme fond d'ambiance entre les rayons du magasin. Qui l'entendrait geindre ? Et puisque décidément, personne ne lui parle jamais, pas un mot plus haut que l'autre. Ou plutôt six mots, con molto tristoso. Six mots rituels qui s'échappent de sa gorge enrouée, coincée qu'elle est, la dame, entre la porte d'entrée qui souffle l'air glacé du dehors et la climatisation tiédasse de la grande surface.
Bah oui, les pauvres.
Ces six mots, les voici. Vous avez la carte du magasin. Elle ne vous reproche rien, hein. Elle s'informe. Ce sphinx sage, c'est déjà la réponse maladroite qu'on lui fera. Non, je l'ai laissé à la maison, mais j'ai la carte Franprix. Ah, ici c'est Carrefour, bon. On sent bien que cette carte doit ouvrir un monde de merveilles et de privilèges. Aujourd'hui, la caissière n'occupe plus le devant de la caisse. Dans un monde connecté, la caisse rapide l'a remplacée. Il était temps. Hein. Maintenant, l'homme qui fait ses courses se trouve seul face à la machine. La France contre les robots. Ah, si Bernanos avait connu ça. J'ai garé mon caddie à droite de la caisse rapide. Devant moi, une poignée en plastique reliée à un fil électrique, mélange de pistolet à eau et d'armes genre laser de Jedi. Mes voisins ont déjà dégainé. Nous sommes six clients, chacun devant sa machine rapide, à jouer à la marchande. Un officier de sécurité nous surveille du coin de l'œil. L'œil était dans l'hyper, regardant le chaland. Tout commence avec la plaque de beurre qu'on pose délicatement sur un plateau métallique quand sur l'écran une alerte inscrit ces lettres terribles. Avez-vous la carte du magasin ? Oui, la machine aussi interroge en un rite initiatique. Si oui, présentez-la au lecteur. Je ne l'ai pas et ça tombe bien parce que de lecteur, en dehors de moi, qui ai lu tout Bernanos, il n'y en a pas. Veuillez scanner votre produit. Pourquoi il est malade ? Le scanner de la guerre, c'est donc cet engin grotesque. J'empoigne l'arme fatale. Le doigté de la caissière ne s'apprend pas. La gâchette doit être ultra sensible. Et si je commets la fatale erreur d'appuyer trop fort, je devine que ce n'est plus une plaque de beurre, mais 10, 20, une motte de beurre, une vache que je vais payer. J'appuie. Rien. Pas de bol. Pas de balle. Les six personnages en quête de caisse rapide ont fini, moi pas. Je cherche la caissière absente. Le vigile m'observe, mélange de mépris et d'agacement. Ah, les intellos sont des demeurés. Il vient vers moi, empoigne la chose, et du geste auguste d'un fédéraire de grande surface rapide, vise le beurre en pleine graisse, un ace. Veuillez scanner votre produit. Il part sans un regard, me voilà, seul avec mes yaourts bio. Miracle, je les scanne du premier coup. Bio, mais irradié par mon rayon. Et puis la lessive le chat, je caresse mon engin, et oui, un bip salvateur, petite décharge de bonheur. Veuillez scanner votre produit, le petit pois est récalcitrant. J'ai choisi non pas ceux du magasin avec la marque du magasin, mais d'autres, plus prestigieux. La caisse rapide veut sans doute me punir de cette infidélité. Ah, c'est peut-être à cause de ça que je n'ai pas la carte de fidélité du magasin. J'appelle à nouveau le juge-arbitre au secours. Il revient animé par une immense inhumanité qui fait peur. Il prend le pistolet à rayon gamma et il échoue lui aussi lamentablement. La joie bernanosienne m'envahit. Je lui lance un regard qui veut dire « Ah, je ne suis pas le seul abruti face à la caisse rapide !» Ah, il n'aime pas, hein. Il lit l'étiquette des petits pois, tape 15 chiffres cabalistiques, c'est bon. Et il me laisse seul face à mon destin pour l'épreuve ultime, celle des fruits et légumes.
Ah oui, il faut peser un peu.
Veuillez scanner votre produit. Alors sur l'écran devant moi, un sudoku de 81 cases, non, un jeu, genre domino pour maternelle. On voit des fruits microscopiques affublés d'un numéro, un bingo des jardins, une classification de Mendeleïev. Adam, au secours, la pomme que tu cueillis est-elle la Golden Delicious ? Touche 27, la Reinette du Canada touche 28, la Gala 29. Dali, au secours, la Granny Smith 30, va savoir. Le douanier m'observe en douce, je sens le gros pépin si je me gourre. Je peux faire appel à une amie, une caissière, une vraie, à l'ancienne, une caissière. Ah, my kingdom for une caissière qui sait le nom des choses, le poids de la pomme d'or du jardin des Hespérides, d'une caissière normale, grise et triste, aux ongles rouges, avec une blouse moche. Fugitive, vigile, dont le regard me ferait soudainement renaître, mais si humaine, si proche de cet être désemparé qui ne sait pas, qui est là face à la caisse rapide. Éloge de la lenteur, douceur d'être ou de n'être pas caissière. Alors pour éviter les emmerdes, je tape la touche 31, Pink Lady à 14 euros le kilo. L'autre, oui, redresseur d'handicapés de la machine comme moi, ça va lui clouer le bec. Veuillez scanner votre produit. Bon, pour les poireaux, là, tout s'est bien passé, je les ai reconnus. Veuillez scanner votre produit. Ah, la suite est douteuse. Ai-je choisi des mandarines, des clémentines de Corse ou d'Espagne? Des oranges? Des navelles? Ah, mauvaise navelle. Bon, j'arrête, je renonce. Ce n'est plus l'heure de questions pour un shampoing. Veuillez scanner votre produit. Mais je n'ai plus de produit. Je paye et je pars. Pas de café, mais l'addition. 487 euros.
Ah non.
Ah, j'ai dû me tromper dans la manœuvre.
Ouais.
Mais il est 20 heures. On ferme. Les lents sont partis, moi et ma caisse rapide. On y est toujours. Le Cerbère est prêt à me fondre dessus. Dans la vie, disait Suétone, on joue, on perd, on paye. Je paierai, avant l'août, foi d'animal et rubis sur l'ongle, je paierai le prix de la vitesse. La caisse rapide est à la caisse avec caissière, ce que le TGV est à la Micheline. Transaction annulée. Et à la maison, Odile m'attend. Le type qui n'attendait que ça se jette sur mon caddie. Vous voulez me suivre? Jean Valjean, au secours, Javert m'a pris. Il me pousse vers une caisse, normale. Ce salaud s'installe à la place de toutes ces caissières qu'il a éradiquées. À la maison, Odile ne m'a même pas attendu. Pourtant, ce n'est pas une rapide. Avant, elle était caissière, comme Anne Parillo dans Nikita. C'est la même qu'on s'est rencontrée. Alors, après la caisse rapide, Fast and Furious, que me reste-t-il? Aller dîner au fast-food.
Mais la vie se joue aux caisses. Non, il lui reste une autre possibilité, Serge.
Non, en fait, j'essayais de voir la recette qu'il avait en tête.
Oui.
Avec le beurre, les navelles, les poireaux et la batavia.
Et la Pink Lady.
La Pink Lady.
Oui, une petite salade de légumes.
Ah ben ça avait l'air appétissant. Oui. Non, je crois que ça vaut le coup de faire la queue pour de vrai à une caisse. C'est quoi le contraire de la caisse rapide alors?
Ah, c'est la caisse avec caissière.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Serge Joncourt, il fréquente beaucoup les supermarchés à cause des caissières, parce qu'il aime voir des jolies jeunes femmes, parce que vous les décrivez moches, sans âge et tout, mais c'est pas vrai. Elles sont comme le monde, il y en a des belles aussi.
Il y a Anne Parillo, bien sûr.
C'est pour ça que vous allez si souvent au supermarché, Serge.
Oui, alors le problème avec les caisses rapides, c'est qu'en général, elles supposent d'avoir moins de 10 articles.
Ouais.
C'est quelque chose qui m'arrive assez peu, il faut le dire.
Ah bon, oui. C'est-à-dire, quand vous faites votre petit sandwich, vous mettez plus de 10 ingrédients dedans, oui.
Ah, un petit sandwich pain de mie, c'est au moins 15. Hein.
Ah bon, d'accord.
Je fais pas la 10, mais...
Et je sais, Jean-Bernard Puy, ce n'est un secret pour personne. Parmi les gens qui écoutent des papous dans la tête, c'est que tout le monde sait que vous habitez le même quartier que Saint-Joncourt.
Hein.
Alors, vous êtes un peu plus éloigné des caisses rapides de Lucas Fournier. Enfin, vous avez probablement un point de vue sur le supermarché, la caisse plus ou moins lente. Doit-on faire les codes-barres soi-même ou pas?
Oui, mais je le connais bien, en fait.
Lucas,
parce que je suis
une
caissière, oui.
Ah, mais
célèbre, c'est ça, Madame Lapin. Je m'appelle Marie-Françoise, mais tout le monde m'appelle Madame Lapin. J'ai jamais su pourquoi. Et je suis la plus ancienne dans ce super. Et dans 6 mois, j'atteindrai la date de préemption. Je veux dire la retraite. 35 ans de caisse. J'ai tout vu comme manière d'encaisser. Et ce que je peux dire, c'est qu'heureusement, j'ai une santé de fer et une patience d'enfer pour avoir encaissé tout ce que j'ai subi. Les progrès techniques, ça va encore. Mais les clients, ça c'est dur. Les lents, les pointilleux, les râleurs, les collants, les vanneurs à la noix. Alors Madame Lapin, bientôt la retraite durable. C'est quand même la vanne du siècle. Mais surtout les crétins congénitaux, les bas de plafond, ceux qui chez eux sont incapables de faire fonctionner leur micro-ondes et qui, au magasin, parviennent in extremis à enfin taper leur code bancaire et non leur date de naissance. Alors depuis peu, je revise un peu. La direction a installé des caisses rapides pour nous décharger un peu de notre rail répétitif et abrutissant.
Oui.
Le problème, ça, c'est étrange, c'est que tous les mous du bulbe choisissent ce moyen de paiement. croyant ainsi échapper.
On a remarqué, oui. Hein.
Ouais. Croyant ainsi échapper au regard compatissant et moqueur de la caissière. Et donc, tous se plantent et sont incapables de faire d'eux-mêmes ce que je fais simplement depuis plusieurs décennies.
Bah oui.
Tous se plantent et donc plantent la machine. Il faut donc intervenir pour les aider, leur expliquer, mais comme ils ne comprennent rien, le faire à leur place. Alors il y a un vigile pour ça, mais il est souvent en pause cigarette. Alors du coup, c'est moi, la doyenne, qui dois m'y coller. Et je me tape pratiquement chaque jour à la même heure, une espèce de gommeux, bien mis de sa personne, le genre à bosser dans un ministère, mais qui est incapable de comprendre comment fonctionne l'automate.
Ben oui, c'est notre Lucas, quoi.
Alors, au début, j'ai tout fait moi-même. Et puis, peu à peu, quand même, j'ai essayé d'être pédagogique. Alors, je lui ai appris une manœuvre, une seule, pour ne pas liquéfier ses neurones et pour qu'il nous la tienne bien. Le miracle, c'est qu'à force, une sorte de complicité s'est installée entre nous, qui a petit à petit viré en amitié. Et je dois dire qu'à présent, on s'amuse presque. Il attend que le vigile, qui est à la limite de l'insulte toujours, disparaissent pour cloper, pour s'installer à une caisse rapide, la faire sonner assez vite et attendre mon arrivée. Là, je fais le même boulot que je fais à ma caisse normale. Et pendant ce temps, lui, il parcourt le monde. Je connais son code de carte bleue et il n'a plus l'occasion ainsi de l'avoir momentanément oublié. Il prend dans les rayons une boîte de gâteaux et de chocolat qu'il me tend après les avoir payés. Et on discute. Je sais qu'il est adjoint au maire pour les questions scolaires. Il me demande des nouvelles de mes petits-enfants. On se permet quelques entorses, une boîte de foie gras, un fromage de chèvre, que je fais semblant de scanner. Il m'a assuré qu'il influerait pour tenter d'obtenir deux places de crèche pour les petits.
Oh, c'est formidable.
Bref, je frime, il frime, on s'amuse bien. On en fait même des caisses, si j'ose dire. L'autre soir, il m'a invité chez lui. Et je me suis rendu compte qu'il ne parvenait même pas à taper sur le code d'entrée. En fait, c'est un lunatique. Il a la tête farcie de trucs qui ne lui servent pas dans la vie. C'est ça, le contraire d'un robot. Comment va-t-il faire quand je serai plus au magasin? J'ai l'intention de former une petite jeune pour s'occuper de lui plus tard. En plus, je crois qu'il est célibataire. Il m'en a fait parler d'une certaine Odile qui vient de repartir chez ses parents à la Malou-les-Bains. Madame Lapin est presque devenue une entremetteuse. Avez-vous la carte du magasin? Je lui demande presque tous les jours. Non, répond-il, j'ai l'amitié de Madame Lapin. J'en rougirai presque.
Mais vous êtes jaloux, Serge?
Non, mais c'est juste que pendant qu'ils causent tous les deux, il y a derrière les clients qui gueulent. Parce que la caisse rapide est devenue la plus lente. Alors.
I feel pretty par les Poupini Sisters.
Les papous, c'est aussi dans ma tête et sur France Culture.
Et oui, et aux papous, on a tous en nous un sportif qui sommeille. Mais oui, même les grincheux qui tordent le nez d'un air méprisant. Quand on parle foot, handball ou tennis, j'en passe. Il vaudrait mieux aller au théâtre, au cinéma, lire un bon bouquin. Mais voyons, on peut être addict au sport, même au sport devant sa télé, et cependant aller au théâtre, au ciné, lire un bon bouquin. Courez voir l'expo, 30 joueurs, 30 photographes, 30 écrivains, l'art du sport. Sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, où sont affichées des photos superbes de footballeurs de légende, accompagnées de textes sur eux, par des écrivains comme Jonathan Coe, Eri De Luca, Paul Fournel, Julia Kristeva ou Patrice Delbourg. On en reparlera. Donc pour tous les fondus de sport, et puisqu'on est en plein tournoi de Roland-Garros, que l'Euro de foot démarre le 10 juin, le Tour de France le 2 juillet, et ensuite, chic, arriveront les JO de Rio. Eh bien, avec quelques papous qui aiment bien le sport, on va jouer à mélanger sport et pastiche pour découvrir pour de vrai faux l'amour de certaines personnalités pour un sport. Alors, on lance l'exercice cette semaine avec Odile Conseil. Odile, c'est une fan de vélo qu'elle pratique d'ailleurs. Si vous êtes parisien, vous pouvez essayer de la suivre dans le bois de Vincennes tous les week-ends. Elle fait ses 60 km avec son groupe de rouleurs. Je pensais donc naïvement qu'elle nous dégoterait des inédits sur le vélo, mais non, elle a choisi un tout autre sport.
Oui, d'un peu plus original, disons, comme genre de sport. Alors, je ne suis pas Raymond Queneau.
Non, ah bon ?
Non.
Pourtant, il y avait un petit air comme ça.
Mais j'ai trouvé, je pense, quelque chose qui est un inédit de Raymond Queneau. Je l'ai trouvé pas loin de Rueil.
Oui.
Donc, en fait, on y apprend que Raymond Queneau a inventé, mais sans le savoir, ça ne s'appelait pas encore comme ça, le kitesurf.
Ah.
Ce sport donc qui consiste à faire du surf en se faisant entraîner par un cerf-volant.
Oui.
C'est un sport plein de contraintes, comme vous savez.
Ah oui,
puisqu'il faut jongler tout à la fois avec la mer et le vent.
Oui, et on est noté sur la beauté des figures que l'on fait sur la vague.
Et on n'en est pas encore tout à fait là, puisque là, on est vraiment aux prémices de ce sport.
Oui, alors qu'est-ce qu'il raconte?
C'est un conte qu'il a dû écrire quand il était préadolescent ou adolescent. Le héros s'appelle Hercule. Tout laisse penser que Hercule, c'est Raymond Queneau. Quand vous prenez les initiales, R et Q, on n'est pas loin de Hercule. Donc
ah,
il
oui,
se met lui-même en scène.
Oui, oui, oui. Voilà. Très finaud, ça.
D'où qui vient dans le vent ? Se demandait Hercule en se grattant la tête de la main qu'il avait libre. L'autre tenait à un appareillage de bouts de ficelle et de plastique. Pas possible, il change tout le temps de sens, un coup par-ci, un coup par-là, et la mer pareil. Elle va, elle vient, elle s'en va, elle revient, elle part sans se retourner. Et finalement non, elle a réfléchi et la revoilà. Jamais à savoir ce qu'elle veut, on se demande comment elle fait pour pas être plus fatiguée que ça. Hercule fut interrompu dans ses réflexions par un zigoto qui avait trop pris le vent. Il avait la gueule tout en travers, et avec ça un méchant sourire en coin, genre qui a toujours une mauvaise blague à vous lancer dans les pattes. « Alors, Mouscaillon, ça mord ?»« Vous avez pas les yeux dans les trous, monsieur, je pêche pas, moi. Et puis d'abord, Mouscaillon, c'est pas mon nom. Moi, c'est Raymond, mais tout le monde m'appelle Hercule. »« Ah ah !» dit l'homme à la gueule en travers et au sourire en coin. « Hercule, c'est beau ça, Hercule, c'est fort. Allez, avance, Hercule. » Si vous étiez pas handicapé de la figure, vous étiez bon pour la castagne. Le dernier qui m'a fait cette blague à deux sous, il a deux dents en moins, 32 dents et deux dehors. Ben voilà un môme qui a de la répartie. Un qui s'en laisse pas compter, pense à l'homme in petto en rangeant son sourire dans un coin reculé de son visage. Et qu'est-ce que tu fais donc tant alors avec ta ficelle? Tu promènes ton chien? Mais il s'est barré ton chien, il a pris la tangente. Hercule prit la planche qui était posée à ses pieds et organisa rapidement une rencontre entre la planche et la tête de l'homme qui se retrouva assis sur les galets à contempler des étoiles. Enfin, on pouvait parler tranquillement. « Non, monsieur, comme vous me voyez, j'invente, je crée, j'imagine que ça va, que ça va, que ça va voler un jour, tout mon attirail. » La planche a repassé, là, avec mes pieds dessus, et une espèce de cerf-volant, mais en plus grand, pour me tirer. Ce que je veux, c'est prendre la mer et le vent, glisser sur l'eau, fendre les flots, faire des sauts périlleux au-dessus des vagues. « Et pourquoi que tu veux voler comme ça ? Pour faire chier les oiseaux, pardi ? Pour leur clouer le bec, pour les intriguer tellement qu'ils en oublieraient de voler et tomberaient à la flotte. Les oiseaux sont des cons. » Hercule planta la lame et se jeta à l'eau pour tester son système. Le cerf-volant volait, la planche flottait, il se hissa, tomba, se rehissa, retomba, se re, etc. 10-20 fois peut-être. Et puis zou, voilà qu'un coup de vent comme il faut le propulsa sur la crête des vagues, comme s'il volait sur les flots. Il chevaucha ainsi une bonne dizaine de vagues avant que la planche ne décide de continuer seule, le laissant encore une fois le bec dans l'eau, nageant comme un forcené pour aller la récupérer. « Une chance que ma mère soit mercière et mon père mercier », se dit Hercule en remontant de la plage, grelottant et pestant contre les galets. « Je pourrais leur prendre de la ficelle pour attacher la planche à ma cheville et mes pieds à la planche. On appellera ça « Ouh là là, je vole en liberté sur l'océan, ça c'est de la poésie ». En abrégé, ça fera « Oulipo ». L'homme à la figure de travers avait disparu. À sa place, un dandy en canotier et à l'air doux, un peu maladif, regardait Hercule avec une lueur amusée dans l'œil. Il était bien trop couvert pour la saison. « Alors, tu t'es bien amusé ?» lui demanda sa mère comme il rentrait. « Comme ça. T'as pas fait chier les oiseaux, au moins ?»« Non, ils étaient pas sur la grève aujourd'hui. »« Comment ça, les oiseaux étaient en grève ?»« Non, ils étaient pas sur la grève. »« Alors, qu'est-ce que t'as fait ?»« J'ai pris froid.
» Ah, c'est très très joli. Alors, notre Oulipien de service, Jacques Jouet, est présent. Alors,
c'est d'une très grande justesse, parce que le personnage d'Icare, qui est en filigrane de ce qu'a fait Odile, est un des personnages centraux de l'imaginaire de Queneau.
Ah oui ?
C'est là que j'ai compris que Icare volait pour faire chier les oiseaux, bien entendu.
Évidemment.
Eh bien oui, on n'avait jamais pensé à ça encore.
Et puis il y a dans ce compte-rendu du petit Queneau toute son œuvre.
Oui, bien sûr. Hein,
tout est en germe. Justement,
il y a Zazie, Hercule.
Alors, Hercule, évidemment, il est un peu plus lourd qu'Icare, hein, comme personnage. Mais justement, là, c'est très beau parce qu'il arrive quand même à voler.
Oui. Et c'est quoi cette chanson, que ça va, que ça va, que ça, que ça va durer?
Si tu t'imagines,
fillette, fillette. Si tu t'imagines. C'est très bien. Moi, je suis ravie que Jacques Jouet était là, parce qu'il peut attester de la véracité de tout ce qui vient d'être dit.
Oui, oui. Eh bien, oui, il a attesté.
Il n'a jamais connu Queneau, certes, mais il est oulipien, donc... Voilà.
Et là, il est allongé par terre sous un masque à oxygène, mais tout va bien.
Dites-nous un mot, faites-nous savoir que vous allez bien, Jacques Jouet.
Mais c'était très très bien, très très bien.
Et alors, est-ce que quelqu'un a été témoin de cette partie sur la plage?
Eh bien, vous avez sans doute déjà compris que le dandy en canotier et à l'air doux un peu maladif qui regardait Hercule remonter de la plage n'est autre que Marcel Proust.
Ah non, je n'avais pas compris du tout, c'est pas grave,
bien trop compris, pour la saison.
J'ai vu Proust.
Ah, évidemment.
Qui est présent sous le nom de Marceline dans Zazie dans le métro.
Ben voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'il en dit?
Eh bien, donc, Proust a assisté à cette scène et il écrit à un ami, cher ami. Alors, je ne sais pas très bien à qui il écrit. Moi, je suppose que c'est à Henri de Régnier, puisque c'est un académicien, comme la fin le laisse penser, enfin, le prouve.
Et est-ce que cette lettre se trouve dans l'ouvrage de Patrick Beignet sur Henri de Régnier?
Non, pas du tout. C'est un inédit que j'ai retrouvé personnellement.
Ah, mais il va être content d'apprendre
ça. Il va être furieux.
Cher ami. Longtemps, je me suis promenée sur la digue du Havre hier. Vous savez combien j'aime les beautés météorologiques des ciels de cette côte qui incitent à la rêverie, ce genre de rêverie auquel ma nature me porte, qui se traduisent parfois en mots. Mais comment faire sensiblement entrer les rêves dans une page? Comment exprimer les couleurs qui habillaient hier le cap de la Hève, où les vagues viennent parler à la falaise avec véhémence, où les goélettes au loin s'effacent dans le bleu-gris, où l'humeur vagabonde entre l'air et l'eau, entre l'azur et l'onde, entre chien et loup. Mais je ne serai pas long. Il me faut prendre une fumigation.
C'est mal parti.
Il me faut prendre une fumigation avant de rejoindre la comtesse à dîner. J'espère qu'elle portera, comme la semaine dernière, lorsque nous nous sommes vus chez elle, l'une de ses charmantes tenues en soie grège agrémentée de dentelles qu'elle fait faire tout exprès à Alençon, selon un motif qu'elle affectionne particulièrement, que l'on trouve aisément dans ses terres d'origine, mais point dans nos contrées. Déambulant sur la digue sans autre but que de promener un peu mes pensées, de leur faire prendre l'air, tout en étant moi-même soigneusement emmitouflée, vous savez à quel point ma bonne Céleste veille à prendre soin de moi et m'oblige, me force quasiment à mettre, en plus du manteau en mérinos que vous me connaissez, une écharpe du plus bel alpaga qu'elle m'a plus que fermement incité à acquérir avec cette douceur têtue qui lui est propre. Je vis un spectacle pour le moins inhabituel, sans commune mesure avec les jeux de plage que l'on voit faire aux enfants et aux adolescents sur la côte, qui s'adonnent à la construction d'éphémères châteaux, au lancer de boules ou à un quelconque jeu de raquettes. Celui-ci avait une sorte de cerf-volant qui, par sa taille, tenait plutôt du parachute, d'un bleu au reflet changeant, oscillant entre le lapis-lazuli, le saphir, avec, quand le vent lui imprimait de légères oscillations, d'infimes nuances aigues-marines frôlant à l'occasion le turquoise. Longtemps, je me suis demandé quelle était la matière, le tissu dont les reflets changeants épousaient à merveille ceux de la mer, et à force de scruter, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une toile de plastique, de ce genre qu'on trouve à dessous dans les merceries, et que cet enfant, si jeune encore, l'avait probablement conçu lui-même, car on y apercevait des morceaux de ficelle papillonnés ici et là, telles les brindilles de laine que l'on voit aux ouvrages de dames pas entièrement finis, mais ce garçon avait néanmoins fait preuve d'un bel esprit inventif. Non content de faire voler bien haut sa création, il se faisait aller par elle sur la houle, les pieds fortement campés sur une planche de ce type que l'on trouve aussi, pour le peu que j'en sache ou que je peux imaginer, dans les merceries. J'espère que ce jeune homme n'est pas, comme je le suis, doté d'une santé fragile, car il a pris la tasse plus souvent qu'à son tour. Mais il a persévéré avec ardeur, et je me suis pris à l'imaginer dans 15 ou 20 ans, devenu un homme, un sportif accompli très certainement, toujours à imaginer des dispositifs nouveaux. Ah, si la littérature pouvait aussi compter dans les temps à venir sur des inventeurs de cette trempe, nous en serions bien aises. Recevez, cher ami, mes franches et cordiales salutations, que j'accompagne de mes souhaits que ce mot écrit à la hâte vous trouve en bonne forme physique et l'esprit toujours fécond, et passez mes respects les plus sincères à ces messieurs de l'Académie.
Belle lettre. Jacques Vallée, vous qui dites que vous avez lu Proust et on sous-entend que vous avez tout lu, ça ressemble, non?
Oui, tout à fait. Oui, mais c'est du vrai Proust.
Jacques Jouet, pas d'accord.
Non, pas d'accord, parce que la voix de Marcel Proust était beaucoup plus maladive que ça. D'ailleurs, il précise dans sa lettre qu'il prend des fumigations, et en fait, il aurait dû prononcer cette lettre d'une façon beaucoup plus nasale.
Ah, comment vous feriez ça, vous?
Ah, ben, je ne sais pas, mais...
Et peut-être de tousser aux virgules.
De tousser, oui, voilà. Oui.
Non, la lettre est vraie, siffler, l'interprétation...
De siffler légèrement.
C'est autre chose.
Oui, mais c'est Odile qui interprète cet inédit, parce que malheureusement, Proust n'est pas parmi nous, donc cette lettre est relatée par Odile
Proust
Conseil.
Proust est toujours parmi nous, vous savez.
Mais vous pensez que dans le rythme des phrases, les fumigations sont induites, ce qui lui donne cette écriture-là.
Eh oui, bien sûr.
Ah oui. Oui.
C'est pour ça qu'il faut le lire absolument dans un état de maladie, soi-même.
Soi-même. Oui. Autrement, on n'accède pas à son univers. Vous avez accédé, vous ?
Non, parce que je suis en très bonne santé. ce n'est pas ma tasse de thé, de ce point de vue.
D'accord. Pas même avec une madeleine, non. Il y a un autre témoignage ?
Eh bien oui, figurez-vous que Félix Fénéon était stagiaire au Courrier Cauchois. À l'époque.
Oui, un peu, ça m'étonne pas.
Et il a relaté, alors, en trois lignes, évidemment, ces petites informations. J'ai retrouvé plusieurs de ses brouillons, hein, parce qu'il était encore débutant, donc il peaufinait un peu son style.
C'était précurseur de ses brèves.
Oui. Voilà. Donc, en voilà quatre versions. Je ne vais pas vous dire que ce sont des exercices de style, mais... Leur fils ayant pris une planche à repasser dans leur mercerie du Havre pour quelques exercices de style, il porte plainte, croyant au vol, puis la retire quand on repasse la planche. On a une autre version. Oui. Une planche à repasser disparaît de leur mercerie au Havre. Le couple porte plainte, puis la retire quand l'objet revient dans les bras de leur fils. Oui. Encore une ?
Oui.
Une planche à repasser disparaît. Les merciers du Havre crient au vol. La plainte est ensuite retirée. L'objet avait été emprunté par leur fils pour exercice. Mmh. Et la dernière, fausse alerte pour les merciers du Havre. La planche à repasser qu'ils croyaient voler avait volé, certes, mais sur les flots, empruntée par leur fils.
C'est bien, ça relate bien... La chose, quoi.
Mais je ne sais pas laquelle de ces quatre versions a été publiée dans le Courrier Cauchois.
Oui.
La dernière, sans doute.
Oui, la dernière est plus juste parce qu'il y a les deux notions de vol. Le vol aérien et le vol...
À la tire.
Oui.
Relisez-nous la dernière, non ?
Fausse alerte pour les merciers du Havre. La planche à repasser qu'ils croyaient voler avait volé, certes, mais sur les flots, empruntée par leur fils.
Bon, oui. Eh bien écoutez, que Queneau ait inventé le kitesurf, voilà une bonne nouvelle.
N'est-ce pas ?
Et puis ce que j'aime bien avec Odile Conseil, c'est que depuis qu'elle a imaginé, inventé un festival de cinéma au Havre, eh ben elle s'arrange toujours pour choisir ce qu'elle va dire au papou en fonction du Havre. Et à chaque fois, elle fait des petites citations sur le Havre, ce que je trouve très sympathique.
Raymond Queneau étant un célèbre natif.
Mais oui, mais absolument, oui. Mais elle l'a choisi en fonction de ça. Bon, de toute façon, il y a sûrement d'autres... pas hypothèse, mais d'autres traces de Queneau, du kitesurf, de Proust peut-être, Gérard Mordia. Je me tourne vers vous parce que je sais que vous êtes un homme, un chasseur d'inédits. Donc, voilà, de même qu'Odile Conseil a trouvé cet inédit de Queneau, je suis certaine que vous en avez trouvé un autre.
Oui, moi j'ai trouvé une très belle chose dans une vente publique qui était le journal intime d'une jeune fille qui s'appelait Odette de Douai et qui fait allusion à ces différentes choses. Elle écrit « Me promenant aujourd'hui sur la digue du Havre pour prendre un bol d'air selon les recommandations de maman, je vis arriver à ma rencontre un dandy en canotier qui semblait fort intéressé par les exploits nautiques d'un jeune homme. Soudain, le vent tourna et une risée plus forte que les autres fit voler le canotier du dandy qui, de façon totalement inattendue, plana jusqu'à moi. Je me saisis du couvre-chef volant et, par jeu, renvoyait le chapeau par la voie des airs au dandy, stupéfait de voir son canotier lui revenir en tournant sur lui-même. Pris au jeu, bien que son air mélancolique ne laissât pas supposer un joyeux luron, le dandy, à son tour, prit le canotier entre le pouce et l'index, pivota sur lui-même et me le réexpédia d'un coup de poignet nerveux et fort à la fois. C'était vraiment très amusant, ludique et sportif, car, enhardis par notre réussite, nous commençâmes à compliquer nos lancers, à risquer des trajectoires, tantôt hautes, tantôt basses, nous forçant soit à faire des sauts de cabri, soit des pliés fendus que Madame Olgachev, ma professeure de danse, n'aurait pas désavoué. Nous expérimentâmes aussi nos talents de lanceurs, soit en nous éloignant l'un de l'autre, soit en nous rapprochant, soit en montant sur le parapet, soit en s'allongeant sur la digue. Le canotier volait, tournait sur lui-même et toujours arrivait dans la main de l'un ou l'autre, bourdonnant comme une abeille, libre comme un astre.
C'est le frisbee ?
Eh ben voilà, c'est le frisbee. C'est l'invention du frisbee.
Avec un canotier, on pourrait appeler ça quoi ? Un canotier ? Ou un... Non, et donc Odette, oui, c'est comme ça qu'elle a rencontré Marcel Proust.
Exactement.
C'est très probable.
Et finalement, le boomerang, c'est un frisbee qui revient.
Oui, mais le boomerang, oui. On y joue tout seul.
Pas forcément, il peut y avoir une proie au bout.
Ah, et qui revient avec le boomerang en même temps.
qui entraîne le kangourou, ça. Oui.
Oh, tico, 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 ta, tico, tico, fils, coucou, ma flat. And when he says coucou, he means it's time to woo, it's tico, time for all the lovers in my flat. I got a heavy day, the day, the day, that ain't so tico, tico, is it really getting late? If I'm on time, woohoo, but if I'm late, woohoo, this is the one I have, so mean I want to wait. For just a birdie and a birdie who goes nowhere, he knows of every lover's name and how to go there. For an offense of the heart, my tico's terribly smart, he does me gently sentimentally at the start. Oh, I hear my little tico, tico calling, because the time is right and she's a murder falling. I love that, that's a coucou, coucou in the clock. Tickle, tickle, tickle in my clock. What is a birdie and a birdie who goes nowhere? He knows that his lover's name has to go there. Or in the face of the heart, my tickle's perfectly smart. He doesn't reject me sentimentally at the start. Oh, I hear my little tickle, tickle falling. Because the time is right and he's just not a falling.
Julien Mijenès. Vous écoutez France Culture, les papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour à suivre. Jusqu'à 13h59, Lexicomania. La textée d'Hervé Le Tellier avec Patrice Delbourg, Jacques Vallée. Et qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard, spécial fête des mères. Le cadeau de Vinci à sa maman, selon Jacques Jouet. Lexicomania, donc, où les dimanches du dictionnaire. Une nouvelle séance pour s'interroger sur certains noms propres devenus communs. Alors, on le sait pour Boycott, Silhouette, Macadam, Poubelle, le plus célèbre. Poubelle, et c'était plutôt joli comme nom, presque plus belle. Pourquoi certains de ces noms passent-ils dans le langage courant et pas les autres? Pourquoi pas Clémentine, Filature, Bateau ou Baratin? Alors, Baratin, c'est le nom commun sur lequel je vous ai proposé de réfléchir, Clémentine Mélois. Est-ce que quelqu'un se cache derrière ce baratin? Vous avez enquêté?
J'ai même pas été me documenter, je connais l'histoire, enfin on me l'a raconté quand j'étais petite.
Dans votre village, on en parlait?
Dans la région, il doit son origine, baratin, au tenancier d'un café, tabac, épicerie, dépôt de pain de Crépy-en-Valois dans l'Aisne.
Ah oui?
Et plus particulièrement de son tenancier, Martin Champy, dit Tintin. Je ne l'ai pas connu personnellement parce qu'il est né en 1889.
Ah oui, c'était pas la même génération.
Non, la génération de mon grand-père. Il est mort de déshydratation pendant la canicule de juillet 1931.
Ah bon? Ah oui.
Ça reste quand même une figure locale inoubliable. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Ah oui. Alors, trapu, rougeau, bâti comme une armoire normande, Tintin régnait sur son monde comme un capitaine de navire, rivé à son zinc, un ballon de blanc limé devant lui. Poète à ses heures d'une verve incomparable, il est l'auteur méconnu d'expressions passées dans le langage populaire comme « j'ai la crépine dans le sable »,« les mouches pieds »,« à boire où je tue le chien
». Oui.
Son chien Kiki, c'était un caniche abricot, apparemment. J'ai vu des photos.
Couleur abricot.
Oui, un petit caniche abricot.
Oui, oui, c'est adorable, ouais, c'est ça.
Non.
Hybride.
Oui.
Ou encore « bourré comme un œuf à deux jaunes oui. » ou « fait comme un jambon », tout ça, ça vient de Tintin.
Ah oui, c'est son vocabulaire, voilà, quoi, très imagé, mais qui doit peut-être beaucoup au blanc limé.
Peut-être, oui.
Hein, peut-être.
Il avait arrêté de boire, il ne buvait plus que du blanc limé, ce qu'on m'a raconté.
Mmh. Oui, enfin, le blanc limé, Jean-Bernard Pau, vous le connaissez un petit peu en blanc. C'est costaud, le blanc limé, non?
C'est pas bon aussi, ça lime.
Faut rien mettre dans le vin, jamais.
Ah mais limé, ça veut dire qu'on met du citron,
de la limonade.
La limonade. Ah, la limonade. Je pensais que c'était une marque.
Du vin blanc avec de la limonade, c'est dégoûtant.
Ah, je ne sais pas, jamais goûté.
Ah, si, mais goûté, c'est pas terrible.
Demain.
Demain, d'accord, chiche. Demain, lundi, rendez-vous au bar, Jean-Bernard.
Alors voilà Tintin.
Oui.
Et le bar à Tintin était un lieu de rencontre. On pouvait y boire une suscassie ou une grenadine, lire la presse, discuter les nouvelles du jour, jouer aux cartes, aux fléchettes ou aux 4-21, acheter son pain ou venir se dépanner si on n'avait plus de farine. On y faisait des paris, on traitait des affaires ou on y faisait du troc. Le bar à Tintin était un lieu de vie très animé. C'est comme ça que l'expression « faire son bar à Tintin » est rentrée dans le langage courant.
Et ouais.
Oui. Lorsqu'un homme rentrait chez lui beurré comme un petit lu,
oui,
ou plein comme une cantine, et qu'il cherchait à se justifier auprès de sa femme, il n'était pas rare qu'elle lui réponde « arrête de me faire ton bar à Tintin ». Lorsqu'un commerçant vantait les mérites d'un produit en essayant de monter les prix, le client répondait que c'était du bar à Tintin. Alors ce sont des voyageurs de commerce qui ont contribué à populariser l'expression « hors des frontières de Crépy-en-Valois ». Avec le temps, bar à Tintin est devenu baratin en un seul mot, mais donc l'origine viendrait de là. Alors je ne sais pas si c'est vrai, moi c'est ce qu'on m'a toujours raconté.
Oh ça semble quand même, bar à oui. Tintin. Ah oui, bar à Tintin.
En tout cas, bourré comme un œuf à deux jaunes, c'est resté. Hein. Oui. Là on sait que ça vient de Tintin.
C'est très bien ça.
Ah mais moi je ne connaissais pas, bourré comme un œuf à deux jaunes. Jaunes. Oui. Oui. Ça n'a jamais dû m'arriver.
Ça c'est très plaisant ça.
Ah bon?
C'est Crépy-en-Valois.
C'est vrai.
On devrait aller faire un tour à Crépy-en-Valois.
Plus souvent.
Pas demain, puisque je vais boire du vin limé avec Jean-Bernard Pouy, mais
après-demain.
Après-demain, d'accord.
Je vais commencer par le rouge limé au début.
Ah bon, vous croyez que c'est mieux?
C'est pas terrible, mais bon.
Ça prépare le palais.
Voilà,
peut-être.
C'est ça.
Ça détruit, ça permet d'avaler le reste.
Shiba, pow, blop, oui. Shiba, pow, blop, oui.
Et c'est le temps de la textée au papou dans la tête. La textée, un jeu dérivé de la fameuse piquetée du peintre Olivier au Olivier. Un jeu qui consistait à guider par la parole des débutants dans l'exécution d'un dessin. Alors, lors d'une séance mémorable, Olivier au Olivier avait tenté de faire dessiner une madone et Jacques Jouet, en s'appliquant pourtant bien à suivre les consignes d'un joueur sérieux, Jacques, ou Lipien, forcément il respecte les règles des jeux, eh bien, il avait dessiné une solide paire de fesses. Bon, l'important c'est de ne pas tricher, de se plier aux injonctions avec honnêteté, quel que soit le résultat ensuite. Pour la textée, eh bien c'est pareil. Hervé Le Tellier a choisi un petit bout de prose, de chanson, de poème, on ne sait pas, qu'il va dicter avec ses mots à lui, à deux papous volontaires, Patrice Delbourg et Jacques Vallée. Il a rédigé pour eux une feuille de route. On la découvre. Hervé Le Tellier.
Ce sont globalement des vers très courts, mais malgré la brièveté des vers, leur définition est un peu plus longue, forcément. D'une manière simple, et sans tenter d'être par trop explicite, faites part de votre contrariété.
Oui, on imagine.
Bon, ça, ça doit être facile.
Oui.
Mentionnez tout en restant vague les efforts que vous faites, pourtant, afin de sortir de cette morosité chronique. Mais c'est en vain.
Donc vous n'y arrivez jamais, quoi. Mais...
Expliquez comment, alors que vous utilisez un moyen de transport individuel, l'intervention d'un individu se révèle non désirée et surtout non pertinente. Il faut avouer que ce qu'il vous raconte ne stimule en aucune manière votre intellect.
Oui. Il a l'air très perturbé, Patrice Delbourg.
Non, ça me plaît. Me rajouter mots saderies.
Ah bah oui,
je suis chez moi, là.
Oui, j'ai presque fait ça pour... et on va voir à la fin à quel point c'est un texte qui est pour Patrice. Revenez à votre contrariété initiale et insistez par différents moyens, d'abord rhétoriques, sur l'intensité de celle-ci. Mettez-vous désormais dans une position plus statique et évoquez l'irruption d'un second individu qui évoque une amélioration possible de votre vestimentation. Et montrer comment une pourtant très simple différence de goût peut entraîner une importante divergence dans la manière d'approcher la virilité.
Ah.
N'hésitez pas à reparler de ces éléments contraires qui s'opposent à la sensation d'un plaisir authentique.
Oui.
Montrez-vous enfin au mieux, dans une situation très valorisante, et indiquez pourtant comment, alors que vous êtes en quête d'une relation érotisée, l'objet de votre désir s'éloigne en prétextant une forme de dépression.
On ne peut pas plaire tout le temps. Hein.
Cette fois, laissez-vous aller à une forme de colère devant la manière dont la vie, dans toute sa violence, refuse de vous offrir le moindre contentement.
Ah, il y a combien de vers pour que cette...
C'est difficile à dire. C'est peut-être une vingtaine de vers, mais très courts, très courts et parfois répétitifs.
Et rarement rimés.
Parfois rimés.
Mais effectivement, vous aviez raison, ça convient tout à fait à Patrice Belmont. On va voir ce qu'il va faire. Et c'est pas si loin de Jacques Vallée non plus.
Je me sens bien dans le climat, mais il me manque peut-être les attributs.
C'est ça. C'est le problème. He needs me. He doesn't know it, but he needs me. And so, no matter where he goes, though he doesn't care, he knows that I'm there.
On retrouve Hervé Le Tellier, Patrice Delbourg, Jacques Vallée. Vous avez donc tous les deux, messieurs Delbourg et Vallée, travaillé sur la feuille de route d'Hervé Le Tellier. Ça s'est bien passé, vous êtes contents?
Ça pourrait, oui, ça.
Oh, bah, dites donc, quel enthousiasme.
Ça pourrait quand même, pour être plus brillant.
Ah, he's fishing for compliments. Ouais. Patrice Delbourg, vous étiez ravi du côté un peu sombre et bourrin du personnage et de l'ambiance.
Oui, oui, j'ai d'ailleurs titré ça Moussaderie.
Moussaderie.
C'est très proche.
C'est vrai.
Du titre.
Et moi, dans le noir.
On est plus loin.
Allez, on reprend les consignes.
Mais
donc.
Ceci dit, il y a quelque chose d'amusant dans le titre, néanmoins.
Très bien.
Voilà. D'une manière simple et sans tenter d'être par trop explicite, faites part de votre contrariété.
Alors, Patrice Delbourg.
Mon Dieu, que c'est embêtant de n'être pas bien portant.
Ah oui, d'accord. Toute ressemblance serait purement fortuite.
C'est totalement illusoire.
Jacques Vallée.
Merdre.
Mm-hmm. Ah oui, vous n'êtes pas trop explicite, c'est vrai. Mentionnez, tout en restant vague, les efforts que vous faites pourtant afin de sortir de cette morosité chronique, et c'est en vain.
Patrice.
Je morfle. Rien n'y fait dès le lever, ni vitamine, ni fortifiant.
Et ça se voit un petit peu. Jacques Vallée.
Dès le matin, quoi que je fasse, tout m'est contraire.
C'est un peu plus littéraire chez Jacques Vallée. Oui. Hein. Est-ce qu'il y a une proximité par rapport au texte original?
Oui, il y a une proximité.
Oui, c'est pas loin. Mais
c'est...
dans la façon dont c'est formulé.
Non, on est très très loin en termes de scansion du texte originel. Mais par contre, dans l'état d'esprit, oui, c'est un peu ça, oui.
D'accord.
Expliquez comment, alors que vous utilisez un moyen de transport individuel, l'intervention d'un individu se révèle non désirée et surtout non pertinente. Il faut avouer que ce qu'il vous raconte ne stimule en aucune manière votre intellect.
Patrice Delbourg.
Coincé dans la rigole, sur ma frêle bicyclette, je subis la vanille d'un agent. Usager rêveur, vous n'avez pas vu les feux clignotants?
Il y a de la violence en plus.
Oh ben, il y a de la violence dans le texte,
oui.
Mais là on est très loin. Quand même. Ah oui, là on est très très loin. Il y a un petit côté quand même tati. Il n'est pas du tout dans le texte.
D'accord, Jacques.
Quand je suis en auto, je subis les injures de n'importe quel abruti.
On n'est pas très loin, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, là.
C'est bien la voiture.
Oui.
Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ouais. Revenez à votre contrariété initiale et insistez par différents moyens, d'abord rhétoriques, sur l'intensité de celle-ci.
Patrice Delbourg.
Les douleurs périnéennes redoublent autour de mon séant.
Ah, mais c'est parce que vous faites trop de vélo, ça. Oui, oui, évidemment. Ouais.
Je reviens aux fondamentaux.
Jacques Vallée.
Dès le réveil, tout m'apparaît pesant, lassant, blessant, cassant.
On sent qu'il ne va pas sortir de sa chambre, en fait, Jacques Vallée, non.
Mettez-vous désormais dans une position plus statique.
Voilà, redressez-vous, Patrice.
Et évoquez l'irruption d'un second individu qui évoque une amélioration possible de votre vestimentation.
Ah.
Et montrez comment une pourtant très simple différence de goût peut entraîner une importante divergence dans la manière d'approcher la virilité.
Donc là, c'était assez complexe, hein, Patrice Delbourg. Oui.
Ouais. Pas faux.
Je descends de ma monture et me masse les reins longuement. Quand un olibrius me conseille de porter en selle un pantalon plus moulant, je lui réponds abruptement que je ne cotise pas au club des petits pédants.
C'est assez joli, hein.
C'est très très loin.
Oui.
Mais c'est assez beau, oui.
Oui.
Mais on est vraiment très loin. Ça pourrait être intéressant de replacer les paroles de Patrice dans le contexte du texte d'origine.
Ah bon?
Techniquement, oui.
Parce que là, il est un petit peu sur ces trois vers dans l'ambiance exercice de style de Queneau.
Si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Assez spontanément.
Je pense,
on en est assez loin quand même.
Bon. Jacques Vallée.
À mon bureau, c'est maintenant le chef de service m'interpellant. Non, je n'ai pas de cravate. Non, je préfère les toiles roulées qui me donnent un air de bûcheron canadien.
Oh, bah, voyez-vous ça.
Enfin, il l'a dit.
Ça y est. Ah oui, depuis le temps qu'on voit Jacques Vallée avec des cols roulés.
Voilà, on sait enfin pourquoi.
Et donc, il est sorti de sa chambre quand même.
Mais non, mais j'ai pris mon auto au départ aussi.
Ben oui,
j'arrive au bureau.
Oui, mais moi, je trouvais que vous aviez le côté bougon des gens qui ont décidé de rester dans leur lit. Quoi.
Non, c'est pas mon cas.
Oui, non.
Donc, on est toujours loin. Hein.
Oui. N'hésitez pas à reparler de ces éléments contraires qui s'opposent à la sensation d'un plaisir authentique.
Patrice.
Tout aujourd'hui, décidément, plombe mon humeur d'une maussaderie en ciment.
Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'espoir.
Non.
Hein.
Non,
mais il n'y en a pas du tout dans la feuille de route.
Non, pas beaucoup. Ah non, mais il a collé au texte, c'est bien. Ah, et c'est joliment écrit. Bien. Jacques Vallée.
Quand même, pourquoi cet énervement permanent, cet ennui qui me suit, l'ennui qui me poursuit.
C'est plus riche que le texte d'origine, hein, mais c'est pas mal.
Oui, il y a un petit côté paranoïa. Mmh.
Oui, oui. Ouais. Oui. Montrez-vous enfin au mieux. Dans une situation très valorisante, et indiquez pourtant comment, alors que vous êtes en quête d'une relation érotisée, l'objet de votre désir s'éloigne en prétextant une forme de dépression.
Là, on vous attend, hein, Patrice Delbourg.
Mon tête-à-tête gastronomique avec un très prometteur décolleté en toboggan tourne court au dernier Mazagran devant une migraine de titan.
C'est foutu, quoi.
Oui, c'est l'histoire, hein. Ça, c'est on est en plein dedans. Ouais.
Ah oui. Ouais. Jacques Vallée.
Il me semble trouver le calme seulement près de toi. Quand je veux te prendre dans mes bras, mais alors tu m'accuses de tout voir en noir, toi aussi tu me tournes le dos.
Ah. Ouais. Je colle roulé, moi, mon avis. <froid. rire>
C'est bien, c'est bien. Cette fois, laissez-vous aller à une forme de colère devant la manière dont la vie, dans toute sa violence, refuse de vous offrir le moindre contentement.
Patrice.
Je vais me recoucher dardard à l'acmé d'un raz-de-marée de ressentiment, priant qu'un sommeil éternel ensevelisse tous mes tourments.
Viande. Mais on sent bien que c'est un être sans espoir. Rien ne peut marcher.
C'est vrai. Black is black.
Black is black.
Et oui.
Ah oui.
Black is black. Ouais.
Jacques Vallée.
Alors moi j'exprime une forme de colère. Alors merdre et merdre et remerdre, aller au diable. Jamais la moindre éclaircie ici.
Ah, il y a un petit regret quand même chez lui. Hein. Oui, il y a plus d'espoir, finalement.
Oui, il y a une colère, oui. C'est beau. C'est bien. Ouais.
On est loin.
On est loin.
Mais on va les réécouter quand même, parce que leur texte était beau.
Ce sont des beaux textes, oui.
Patrice Delbourg.
Mon Dieu, que c'est embêtant de n'être pas bien portant. Je morfle rien ni fait dès le lever, ni vitamine, ni fortifiant. Coincé dans la rigole sur ma frêle bicyclette, je subis la vanille d'un agent. Usager rêveur, vous n'avez pas vu les feux clignotants? Les douleurs périnéennes redoublent alors autour de mon séant. Je descends de ma monture et me masse les reins longuement. Quand un olibrius me conseille de porter en selle un pantalon plus moulant, je lui réponds abruptement que je ne cotise pas au club des petits pédants. Tout aujourd'hui, décidément, plombe mon humeur d'une maussaderie en ciment. Mon tête-à-tête gastronomique avec un très prometteur décolleté en toboggan, tourne court au dernier Mazagran devant une migraine de titan. Je vais me recoucher dardard à l'acmé d'un raz-de-marée de ressentiment, priant qu'un sommeil éternel ensevelisse tous mes tourments.
C'est beau.
C'est beau. Maintenant j'ai compris, parce qu'au début j'avais compris pyrénéen, mes douleurs pyrénéennes, et je ne comprenais pas pourquoi.
Mensonge au-delà du périnée, disait Louis XIV.
Jacques Vallée, on vous écoute, vous aussi.
Merde, dès le matin, quoi que je fasse, tout m'est contraire. Quand je suis en auto, je subis les injures de n'importe quel abruti. Dès le réveil, tout m'apparaît pesant, lassant, blessant, cassant. À mon bureau, c'est maintenant le chef de service, m'interpellant. Non, je n'ai pas de cravate, non, je préfère les cols roulés, qui me donne un air de bûcheron canadien. Quand même. Pourquoi cet énervement permanent, cet ennui qui me suit, l'ennui qui me poursuit? Il me semble trouver le calme seulement près de toi. Quand je veux te prendre dans mes bras, mais alors tu m'accuses de tout voir en noir. Toi aussi, tu me tournes le dos. Alors merde, rire, merde, rire, remerde, aller au diable, jamais la moindre éclaircie, ici.
Mais t'es pas tout seul, Jacques, on est là.
Ah non, c'est bien. C'est bien.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez texté, Hervé Letellier ?
Eh bien. Alors, c'est un texte qui est la deuxième chanson la plus connue au monde. d'après le magazine Rolling Stone. Et donc, c'est « I can get no satisfaction
». Ah
bah, « I can get no satisfaction ». Mentionnez tout en restant vague les efforts que vous faites pourtant afin de sortir de cette morosité chronique, c'est en vain. And I try.
Oui.
I can get no.
Oui.
Voilà. Ensuite, when I'm driving in my car.
Ah oui, la voiture. Bah oui. Oui.
And that man comes on the radio.
Oui.
And he's telling me more and more about some useless information supposed to fire my imagination.
Mm-hmm.
I can get no. No. Oh no. Hey, that's what I said. I can get no satisfaction. Oui. Satisfaction. Because I try. I can get no. Alors ensuite, mettez-vous dans une situation plus statique. When I'm watching my TV.
Ah ben right, oui.
And that man comes on to tell me how white my shirts can be.
Ouais.
But he can't be a man because he doesn't smoke the same cigarettes as me.
Ah oui.
Bah oui. C'est
la différence, même chose, j'avais oublié
l'importante divergence dans la manière d'approcher la virilité.
Ouais.
I can get no, oh no. Hey, that's what I say. I can get no satisfaction. I can get no girl reaction. Because I try. I can get no. Et enfin, la situation qui est valorisante. When I'm riding around the world, and I'm doing this, and I'm signing that, and I'm trying to make some girl who tells me, baby, better come back later next week, because you see, I'm on a losing streak. Donc, elle est dépressive et ça va pas bien. Et là, I can get no, oh no. Hey, that's what I say. I can get no. I can get no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction.
Ah, c'est très très bien. Donc, c'est marrant parce que c'est une chanson dont on connaît surtout le refrain. Hein.
Oui, semble-t-il. Semble-t-il.
C'était une très bonne idée. Puis vous l'avez dit avec un anglais basique que tout le monde peut comprendre. Vous qui avez
mon chevalier,
un formidable accent.
Mais oui.
Mais ah, oui.
J'aime bien le Maurice Chevalier Touch.
Ah oui, lui, indispensable. C'était pire que ça. Hein.
Oui. I will the nightingale.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Delbourg? Vous ne vous êtes pas douté une seule seconde.
Non.
Qu'il textait cette chanson.
Non, moi je pensais beaucoup plus aux Beatles d'emblée.
Ah mais bon?
Oui,
c'était dans quoi?
Michel Mabel.
No Milk Today, non, c'est pas les Beatles.
No Milk Today rejoint un peu le sujet.
Si c'est vrai que quand il n'y a pas de lait, d'un seul coup.
Ah, oui,
mais c'était pas les Beatles, No Milk Today.
Non, pas du tout.
C'est qui c'est...
No Milk Today, c'était les.
Non,
Herman Hermit.
Bravo, Jean-Bernard Pouy.
Quelqu'un qui n'aime pas le musical.
Il connaît
Monsieur Pouy,
en fait,
toujours sur la brèche.
Mais on a le droit maintenant de présenter des textes en langue étrangère.
Je me suis autorisé celui-là.
Mais
qui
écoutez,
était
là, c'est vraiment de l'anglais que tout le monde comprend, je pense, même quand.
Pas moi, mais enfin bon. Mais
écoutez, moi, je suis très content. J'ai l'impression d'avoir complètement trouvé le texte, parce que je n'ai rien compris au texte qu'a lu Hervé.
Mais enfin, Jacques Vallée, vous nous avez toujours dit que vous aviez enseigné l'anglais.
Oui, mais il y a très longtemps.
They're writing songs of love, but not for me. Our lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool and get that way. I hope I lost, and also luck a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not me. I to fall and get that way. I hope I last and also luck a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me.
La pauvre chérie, but not for me, Nina Hagen. Vous écoutez Les Papous, et c'est la dernière séquence dans la tête, bien sûr, Les Papous, et sur France Culture. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard? Une série chronique écrite par Jacques Jouet. Léonard Sévinci, déjà très imaginatif quand il était petit, toujours prêt à épater sa maman, en inventant pour elle un jour le tuyau d'arrosage, un autre jour le tapis, la tapette à souris, et maman gâtée, maman joyeuse. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard? Nouvel épisode par Jacques Jouet. La scène se passe chez les Vinci, le jour de la fête des mères.
Léonard, mon petit Léonard, dit Madame de Vinci, je te connais comme si je t'avais fait, quand je te vois comme ça, avec ton petit sourire et te tortillant des fesses, c'est que tu es encore en train de m'inventer quelque chose. Je me trompe? Viens ici, viens plus près, que je te fasse un bisou. Désolé maman, mais j'ai pas le temps. Pardon? J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec mon papa. Rendez-vous avec ton papa? Oui. Ah bah ça alors, c'est une première. Léonard, rendez-vous avec son père? On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous comploter, ces deux-là? Et c'était pourtant vrai. Le petit Léonard avait rendez-vous avec son père, mais le rendez-vous ne dura pas. Monsieur de Vinci écourta la conversation. Il dit à Léonard, « Écoute, Léonard, de deux choses l'une, mon enfant, soit tu fais un cadeau à ton père pour la fête des pères, soit tu fais un cadeau à ta mère pour la fête des mères, mais faire un cadeau à ton père pour la fête des mères, non. No. Impossibile. Va franculo, Leonardo. » Tout penaud, le petit Leonardo changea son fusil d'épaule et retourna voir sa mère. Il était au bord des larmes. « Oh, toi, tu as des soucis. Qu'est-ce que t'as encore inventé, mon pauvre petit inventeur? Allez, viens me faire un câlin. »« Bah, c'est foutu pour la fête des mères, maman. J'avais un cadeau formidable. »« Bah, pourquoi dis-tu « j'avais » ?»« La fête des mères, c'est aujourd'hui. C'est jusqu'à ce soir. Il est à peine 14h. Rien n'est perdu. Tu as jusqu'à 23h59 pour m'offrir le cadeau de fête des mères. »« Mais si, maman, c'est perdu parce que mon papa ne veut pas. » Mais ne veut pas quoi? Il fallait qu'il participe financièrement au cadeau, c'est ça? Non, pas financièrement. Alors, de quoi s'agit-il? Tu m'as inventé quelque chose d'utile? Ah oui! Ah oui, maman! Je t'écoute, vraiment, aujourd'hui, il faut tout arracher. Eh ben voilà, je vais tout te balancer, ma chère maman. C'est à propos de notre famille, nombreuse, et qu'il l'est peut-être un peu trop. Je te sens fatigué par tous ces accouchements à répétition. Et je pense que le moment est venu de t'accorder une pause dans le cycle naturel de la fécondation, sans pour autant renoncer aux privautés que papa se permet avec toi et ton consentement, et sans doute pas aussi souvent que tu le souhaiterais, si j'en crois les conversations que j'ai surprises à maintes reprises entre vous à l'occasion de certaines étreintes plutôt bruyantes au point de me sortir de mon sommeil, et dont il m'est arrivé de ce fait d'être le témoin passablement indiscret. Je le reconnais, il serait peut-être temps que je mette un point final à cette longue phrase et que j'en commence une autre. Bref, ma chère maman, je me suis dit que pour la fête des mères, j'allais t'inventer un petit objet qui te préserverait, non des plaisirs pénétrants de l'étreinte, si j'en crois ce que j'ai vu et entendu, mais des conséquences fécondatoires de la dite. Oh, mon sang, ma vie, mon petit Léonard, comme tu es intelligent et gentil avec ta vieille mère. Oui, maman, mais tu sais, une pareille invention demande une expérimentation longue et délicate, à laquelle je me livre en secret depuis déjà plusieurs mois avec ma petite amie. Tu veux dire avec mademoiselle Lisa? Avec Mona? Ah ben oui, maman, avec elle et personne d'autre. Mona et moi, nous sommes amoureux, maman. Je sais que tu ne peux pas la voir en peinture, mais moi, oui. Bon, admettons, dit la maman, de toute façon, c'est ton affaire, mais au moins essaie de ne pas la mettre enceinte, s'il te plaît. Tu n'as que 12 ans et demi, et elle 11, ne l'oublie pas. Il n'y a aucune crainte, maman, justement, car il m'est venu une idée que je ne cesse d'expérimenter de jour en jour et de nuit en nuit. Combien de fois t'ai-je observé dans la cuisine, maniant afin de couvrir un pot de confiture, un reste de salade de museau ou une demi-banane entamée, le film étirable de mon invention, je précise, qui épouse parfaitement la forme du pot ou du fruit. Et je me suis dit que si j'enveloppais soigneusement mon membre avec lui, je serais en capacité, sans trop perdre de sensations, de ne pas déposer en Mona les millions de micro-bébés potentiels qui assurent, si j'ai bien compris, la perpétuation de l'espèce. Mais c'est génial, Leonardo! Oui, enfin, ne le dis pas trop fort, maman, parce que le Saint-Siège n'est qu'un jet de pierre de chez nous, et je ne sais pas si la papauté verrait tellement ça d'un bon œil. Mais attends, maman, ne te précipite pas sur le rouleau de film étirable, car j'ai considérablement amélioré mon invention. J'utilise à présent de la vessie d'agneau absolument impeccable. J'utilise des agneaux qui viennent de Cornouailles, figure-toi. La vessie est à la bonne taille, et je l'ai chauffée au chalumeau de mon invention pour lui donner une forme de tuyau allongé. Et j'ai là une boîte de 12 que je voulais confier à papa en lui expliquant le mode d'emploi. Tu as vu qu'il n'a pas souhaité effectuer l'essayage. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Car ce n'est pas du tout ma taille à moi, c'est beaucoup trop grand. Ah, dit Madame de Vinci, en réfléchissant. Eh bien, dans ce cas, voilà ce que nous allons faire. Tu vas me donner la boîte de... Tu appelles ça comment, au fait? Capota inglese, maman. Je t'ai dit que les agneaux venaient d'Albion la perfide. Eh bien, tu me donnes la boîte pour la fête des mères, et moi, je l'offrirai à ton père pour la fête des pères. Ou même avant.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. À podcaster sur franceculture.fr pendant un an. Pour les remarques, questions, direction, la rubrique commentaires sur franceculture.fr à la page des papous ou sur notre page Facebook, les amis. On se retrouve dimanche à 12h50 pour d'autres aventures ludiques et papouesques. Au revoir. Passez un très bel après-midi sur France Culture, vous y serez toujours en bonne compagnie. Quoi, quoi? Ah!